Chapitre 9. Contenant des choses étranges. À son retour chez Mrs. Miller, Jones trouva la situation des affaires bien différente de ce qu'elle était à son départ. La mère, les deux filles et le jeune M. Nightingale étaient à souper tous ensemble quand l'oncle, suivant le désir qu'il en témoigna lui-même, fut introduit sans aucune cérémonie. Il était parfaitement connu de toute la compagnie, étant venu plusieurs fois voir son neveu dans cette maison. Le vieux gentilhomme s'avança aussitôt vers Miss Nancy, la salua et lui fit son compliment. Il en fit autant à la mère et à la plus jeune sœur, et enfin il s'adressa à son neveu et le complimenta avec autant de joie et de courtoisie que s'il avait épousé son égal ou même sa supérieure en fortune, et qu'il eût rempli préalablement toutes les formalités requises. Miss Nancy et son mari supposé pâlirent tous deux en cette circonstance et restèrent stupéfaits. Mais Mrs. Miller saisit la première occasion de se retirer, et, ayant envoyé prier Jones de venir la joindre dans la salle à manger, elle se jeta à ses pieds, qu'elle arrosa de ses larmes, l'appela son bon ange, le sauveur de sa pauvre petite famille, lui prodigua les noms les plus respectueux et les plus tendres, et lui fit toutes les sortes de remerciements que le bienfait le plus considérable peut mériter du cœur le plus reconnaissant. Après que ce premier transport se fut calmé, transport qui l'eût étouffé, dit-elle, s'il ne lui eût pas été permis de s'y livrer, elle informa M. Jones que tout était arrangé entre M. Nightingale et sa fille, et qu'ils devaient se marier le lendemain matin. Jones, en ayant témoigné une vive satisfaction, la pauvre femme retomba encore dans un accès de joie et de reconnaissance qu'il ne parvint à calmer qu'en l'engageant à aller rejoindre la compagnie qu'ils trouvèrent d'aussi bonne humeur qu'il l'avait laissée. Cette petite société passa ensemble deux ou trois heures fort agréables, pendant lesquelles l'oncle, qui était très grand amateur de la bouteille, avait mené son neveu si grand train que ce dernier, sans être absolument ivre, commençait à être un peu étourdi. C'est dans cet état qu'il emmena son oncle dans l'appartement qu'il avait occupé et lui ouvrit son cœur en ces termes. « Comme vous avez toujours été pour moi le meilleur et le plus tendre des oncles, et comme vous m'avez montré une bonté sans égale en me pardonnant ce mariage que l'on peut juger sans doute un peu inconsidéré, je ne me pardonnerai jamais si j'essayais de vous tromper. » Il lui confessa alors la vérité et lui révéla tout. « Comment, Jacques ? » dit le vieux gentilhomme. Est-il donc bien vrai que vous n'êtes pas marié avec cette jeune personne ? Non, sur mon honneur, répondit Nightingale. Je vous ai dit la pure vérité. Mon cher enfant, s'écria l'oncle en l'embrassant, je suis véritablement charmé de le savoir. Je n'ai jamais eu plus de plaisir dans ma vie. Si vous aviez été marié, je vous aurais aidé de tout mon pouvoir à tirer le meilleur parti d'une mauvaise affaire. Mais il y a une grande différence entre une chose déjà faite, et par cela même irréparable, et celle qui est encore à faire. Laissez votre raison vous conseiller, Jacques, et vous verrez cette union sous un jour si ridicule et si absurde que je n'aurai pas besoin d'un seul argument pour vous en dissuader. Comment, monsieur, reprit le jeune Nightingale, y a-t-il cette différence entre une action déjà faite et une action que l'on est en honneur obligé de faire ? « Bah ! » dit l'oncle, « l'honneur est une création de l'homme. Le monde a sur elle le pouvoir d'un créateur et peut le gouverner et le diriger à sa guise. Vous savez le peu d'importance que l'on met à toutes ces petites brèches faites au contrat de cette nature. Les plus considérables ne font que la surprise et la conversation d'un jour. Y a-t-il un homme qui en ait plus de répugnance à vous donner sa sœur ou sa fille ? Y a-t-il même une sœur ou une fille qui montre plus de répugnance à recevoir votre main ? L'honneur n'est point du tout intéressé dans ces sortes d'affaires. « Pardonnez-moi, monsieur, s'écria Nightingale, je ne peux pas penser comme vous. Non seulement l'honneur, mais encore la conscience et l'humanité y sont intéressés. Je suis bien convaincu que si je manquais aujourd'hui de parole à cette jeune personne, je causerais infailliblement sa mort, et je me regarderais alors comme son meurtrier. Oui, comme son meurtrier. Et par le plus cruel de tous les moyens, en brisant son cœur. Briser son cœur ! Oh oui, vraiment ! Non, non, Jacques, dit l'oncle, Les cœurs des femmes ne se brisent pas si facilement. Ils sont durs, mon garçon, ils sont durs.
Mais, monsieur, répondit Nightingale, mon cœur est engagé, j'aime, et je ne pourrai jamais être heureux avec aucune autre femme.
Combien de fois vous ai-je entendu dire que l'on devait toujours laisser les enfants choisir pour eux-mêmes, et que vous laisseriez à ma cousine Henriette toute liberté à cet égard.
Fort bien, reprit le vieux gentilhomme, c'est en effet mon avis,
mais à condition qu'ils feront un choix sage. Jacques, il faut absolument que vous abandonniez cette fille, et vous l'abandonnerez.
Mon oncle, s'écria Nightingale, il faut que je l'épouse, et je l'épouserai.
Vous l'épouserez, jeune homme, dit l'oncle.
Je ne m'attendais pas à entendre sortir un pareil mot de votre bouche.
Je ne m'étonnerais pas que vous employassiez un semblable langage avec votre père, qui vous a toujours traité avec la plus grande rigueur et vous a toujours tenu à la distance qu'un tyran met entre lui et ses sujets. Mais moi, qui ai toujours vécu avec vous sur le pied de l'égalité, j'aurais dû sûrement m'attendre à être mieux traité par vous. Mais je sais bien comment t'expliquer tout cela. Tout cela vient de votre mauvaise éducation, dont je me suis trop peu mêlé. Voyez ma fille, que j'ai élevée comme mon amie. Elle ne fait jamais rien sans me demander mon avis, et ne manque jamais de le suivre.
Vous ne lui avez jamais donné d'avis dans des affaires de cette nature, dit Nightingale, car je me trompe beaucoup sur son compte, ou elle ne se montrerait pas très empressée d'obéir, même à vos ordres les plus positifs, dans le cas où il s'agirait de renoncer à son inclination.
Ne calomniez pas ma fille, répondit le vieux gentilhomme avec un peu d'humeur. Ne calomniez pas mon Henriette. Je l'ai élevée de manière à n'avoir pas d'inclination contraire à la mienne. En lui laissant faire tout ce qu'elle veut, je l'ai accoutumée à aimer tout ce que j'aime.
Pardonnez-moi, monsieur, dit Nightingale, je n'ai pas le moindre dessein de faire des réflexions fâcheuses au sujet de ma cousine, pour laquelle j'ai la plus grande estime. Mais je suis persuadé que vous ne la mettrez jamais à une aussi rude épreuve, et ne lui donnerez pas des ordres aussi difficiles à suivre que ceux que vous me donnez.
Mais, monsieur, allons rejoindre la compagnie. On pourrait être inquiet de notre longue absence.
Il faut cependant que je demande une grâce à mon cher oncle. C'est qu'il ne dira rien qui puisse blesser la pauvre Nancy ou sa mère.
Oh, vous n'avez pas besoin de craindre, répondit-il. Je me respecte trop pour insulter les femmes. Je vous accorde donc très volontiers cette grâce. Mais en retour, je me crois en droit d'en attendre une autre de vous.
Il y a bien peu de vos commandements, monsieur, auxquels je ne me fasse toujours un véritable plaisir d'obéir.
Je ne vous demande rien d'autre chose, dit l'oncle, que de m'accompagner à mon logement, afin que je puisse raisonner un peu davantage avec vous sur cette affaire. Car je voudrais, s'il était possible, avoir la satisfaction de servir ma famille, malgré la folie opiniâtre de mon frère, qui se croit l'homme le plus sage du monde. Nightingale, qui connaissait son oncle pour être aussi entêté que son père, consentit à l'accompagner chez lui, et ils rentrèrent tous deux dans l'appartement, où le vieux gentilhomme promit de se comporter avec la même décence qu'auparavant.
Chapitre 10. Court chapitre qui termine le livre. La longue absence de l'oncle et du neveu avait un peu inquiété la compagnie qu'ils avaient momentanément abandonnée, d'autant plus que pendant le dialogue précédent, l'oncle avait souvent élevé la voix, de manière à être entendu de l'étage au-dessous. Quoiqu'on ne pût pas distinguer ce qu'il disait, Nancy, sa mère et Jones lui-même en avaient tiré des conséquences fâcheuses. Quand la compagnie se trouva de nouveau rassemblée, il y eut une altération visible sur tous les visages, la gaieté qui y avait d'abord généralement brillé en étant presque entièrement disparue. Ce changement était assez semblable à celui qui arrive au temps dans le climat où, d'un moment à l'autre, le soleil se couvre de nuages dans l'intervalle du mois de juin au mois de décembre. Cette altération ne fut pas cependant beaucoup remarquée par ceux qui étaient présents. Car, comme ils étaient tous occupés à cacher ce qu'ils pensaient et à jouer leur rôle, chacun d'eux était trop acteur pour être spectateur. Ainsi, ni l'oncle ni le neveu ne s'aperçurent d'aucun symptôme d'inquiétude dans la mère ni dans la fille et ni la mère ni la fille ne remarquèrent la complaisance forcée de l'oncle et la satisfaction affectée qui grimaçait sur le visage du neveu. C'est ce qui arrive fréquemment, je crois, lorsque toute l'attention de deux amis, absorbés par le rôle que chacun d'eux joue pour s'en imposer mutuellement, ne voit ni ne suspecte l'art que son adversaire emploie contre lui. Ainsi, pour me servir d'une métaphore qui convient assez à la circonstance, toutes les bottes qu'il se porte sont des bottes fourrées. Par la même raison, il n'est pas extraordinaire que deux personnes fassent à la fois un mauvais marché, quoiqu'il y en ait toujours un qui doive perdre plus que l'autre, comme celui qui avait vendu un cheval aveugle et reçu un faux billet en paiement. Environ une demi-heure après, la compagnie se sépara, et l'oncle emmena son neveu, mais non avant que ce dernier n'eût eu le temps d'assurer tout bas à Miss Nancy qu'il reviendrait le lendemain matin de bonne heure et remplirait tous ses engagements. Jones, qui était le moins intéressé dans la pièce, fut celui qui la vit le mieux. Il avait soupçonné le fait, car, outre le grand changement qu'il avait remarqué dans la conduite de l'oncle, l'air réservé qu'il avait pris et sa politesse affectée pour Miss Nancy, l'enlèvement d'un nouveau marié à sa femme à 7 heures de la nuit était un procédé si extraordinaire qu'on ne pouvait l'expliquer qu'en imaginant que le jeune Nightingale avait tout révélé à son oncle, ce que la franchise connue de son caractère et l'espèce d'étourdissement où le vin l'avait jeté ne rendait que trop probable. Tandis qu'il raisonnait en lui-même s'il instruirait ces pauvres gens de ce fatal soupçon, la servante de la maison vint lui dire qu'une femme demandait à lui parler. Il sortit aussitôt, et prenant la lumière des mains de la servante, fit monter avec lui la femme en question, qui n'était autre que Mrs. Honora. Elle lui donna de si terribles nouvelles concernant Sophie, que toute autre considération s'évanouit à ses yeux. Sa pitié fut entièrement absorbée dans le sentiment de son propre malheur et de celui de son ange infortuné. Quel était ce terrible accident? Le lecteur en sera informé quand nous lui aurons préalablement raconté ce qui y avait donné lieu, et ce sera le sujet du livre suivant. Fin du livre 14e.